J'ai à cœur de vous parler de marcher avec Dieu. Alors, pour les vieux comme moi, enfin, pas si vieux que ça, hein, je ne les fais pas. Pour les vieux comme moi, je me souviens que quand on sortait avec une fille, quand on était jeune, je sais pas si tu te souviens, chérie, on marchait avec la fille. C'était pas très poétique. Je sais pas si les plus anciens ont connu ça, mais dans le Nord, on disait ça, je marche avec elle. Ouais? Ben, je ne vous invite pas à marcher avec les filles ou avec les garçons. Je vais vous inviter à marcher avec Dieu ce matin. Et on va essayer de comprendre ce que c'est que marcher avec Dieu. Parce que peut-être que parfois on a une incompréhension ou une, en tout cas une compréhension qui n'est pas totale de ce que veut dire marcher avec Dieu. Je ne vais pas être très long, parce que je voudrais vraiment être précis, concis. Enfin, je vais essayer. Ouais, vous me connaissez, des fois je suis parti, je ne m'arrête plus. Mais on va essayer d'être précis, concis et de faire en sorte qu'à la fin de ce message, nous puissions dire d'abord, est-ce que je marche vraiment avec Dieu aujourd'hui? Et que dois-je faire pour marcher avec lui? D'abord, je vous parlais d'hommes. Il y a des hommes et des femmes dans la Bible qui ont marché avec Dieu. J'ai pris quelques exemples. Énoch, il est écrit dans le livre de la Genèse que Énoch marcha avec Dieu. Jacob déclare, le Dieu en présence duquel ont marché mes pères. Noé marchait avec Dieu. Ça nous a été dit la semaine dernière. Noé a marché avec Dieu. Et nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Regardez, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. On a quelques petites pistes déjà sur la manière dont nous devons marcher. Et puis, il est écrit dans le livre de Malachie, ou Malachie, Malachie, peu importe. La loi de la vérité était dans sa bouche. Il est question de Lévi, et là, c'est très intéressant. Lévi était le souverain sacrificateur, d'accord? Vous dites si je me trompe, hein? Je raconte peut-être des bêtises. Vérifiez dans vos Bibles, mais quand même, le souverain sacrificateur, par excellence, c'est Jésus-Christ. Je pense que ici, il prophétise, Malachie, à la fois sur Lévi, mais il prophétise sur Jésus et il prophétise sur nous parce que n'oublions pas, comme le dit l'Apocalypse, que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous sommes tous des sacrificateurs. Et regardez ce qu'il est dit ici. La loi de vérité était dans sa bouche. Et vous savez que ce qui sort de notre bouche, en général, c'est ce qu'il y a dans notre cœur, hein. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Ah, c'est intéressant ça. J'y reviendrai après. Alors, je vais vous raconter une expérience. Quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans, je courais, enfin, je faisais de la course à pied. Bon, apparemment, j'ai refilé le virus à mon fils, Geoffrey, mais je courais beaucoup. Comme disait Maryse, tu cours après perdu. Tu cours après rien du tout. Je ne sais pas ce que tu vas faire quand tu mets tes baskets. Quand tu mets tes chaussures de running, mais tu cours après rien. Mais néanmoins, j'ai beaucoup appris en courant. Et un jour, j'ai fait un semi-marathon. C'était dans l'Avesnois, à Landrecies. Et j'étais super. J'allais péter tous les scores, comme on dit. J'étais super bien préparé, aucune douleur. J'étais affiné. Allez. Je me suis dit, je vais faire un super temps sur ce semi-marathon. La course démarre, impossible de trouver mon rythme. Pour ceux qui font de la course à pied, parfois vous le diront. Quand vous courez comme ça, vous dites, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et c'est la question que je me suis posée pendant les 7-8 premiers kilomètres. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? En plus, c'était un dimanche. J'ai loupé le culte à l'église pour courir un semi-marathon. Et je me dis, je souffrais, j'étais en pleine forêt de Mormal, là-bas, à côté de Landrecies. Je courais, et je n'arrivais pas à trouver mon rythme. Et j'étais parti très vite, et au fur et à mesure que ça avance, et ça, pour les gars qui, les personnes qui font de la course à pied vous le diront, quand vous voyez tout le monde passer devant vous comme ça, le moral encore, il descend encore plus. Et puis, à un moment donné, vers le 7-8e kilomètre, que vois-je au loin? je vois cette image, je vois une femme devant moi qui avait une allure qui venait de me dépasser et qui avait une allure vraiment très fluide. Et puis, qu'ai-je fait ? Eh bien, j'ai accéléré, j'ai augmenté ma cadence pour la rejoindre. Tiens, Geoffrey, tu peux venir ? Ce Geoffrey, il aime la course à pied. On ne va pas courir, je te préviens. J'aurais trop peur de te larguer, fils. Et en fait, vas-y, marche, marche. Voilà ce que j'ai fait. Ouais, pas trop vite, hein, parce que n'oublie pas que je suis vieux. Vas-y, Geoffrey court. Et qu'ai-je fait ? J'ai accéléré ma cadence pendant un moment pour me mettre à côté. Tiens, on va faire demi-tour, parce que l'arrivée, c'est par là. Je me suis mis à la même cadence, mais pas à la longueur de ses pas. Et sa respiration, pour ceux qui font de la course à pied, ils vous le diront, la respiration veut dire beaucoup. Et j'ai calqué ma respiration sur la respiration de cette femme. À tel point que dans les 2 kilomètres qui ont suivi, j'avais trouvé mon rythme. Vas-y, merci fils. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est une image prophétique que j'ai reçue lundi. La nuit de lundi à mardi. Je voulais vous parler d'autre chose. Mais ce que Dieu demande aujourd'hui à son Église, c'est de faire ce que j'ai fait dans mon semi-marathon. Pourquoi ? D'abord parce que l'apôtre dit qu'il court de manière à remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il est en train de dire que de comparaître sa vie d'homme croyant à un athlète qui court, mais qui ne court pas à 100 mètres. Si la vie chrétienne, mes amis, se résumait à 100 mètres, on serait tous gagnants, on y arriverait tous. Mais vous savez, pour parcourir de longues distances, malheureusement, nous avons parfois dans nos vies, à cause, tout simplement parce que nous n'arrivons pas à trouver le rythme, ou tout simplement parce qu'à un moment donné, nous avons des crampes, ou tout simplement parce qu'à un moment donné, nous n'avons plus de souffle, parce que la vie est ainsi faite, il y a des pentes que nous devons gravir, parfois aussi des descentes, et même les descentes sont parfois un peu difficiles à négocier lorsqu'on court. Autrement dit, le Seigneur voit de la manière dont nous marchons avec lui. Et il est en train de me dire à moi, et je ne sais pas s'il vous parle à vous, il est temps, Bruno, que tu arrêtes de courir essoufflé. Il est temps que tu arrêtes de... D'abord, surtout, ne t'arrête pas. Mais si tu prenais un instant pour me regarder, pour regarder ma foulée, pour regarder mes pas, de la manière dont je marche, dont je cours, la manière dont je fais les choses, si tu prenais un instant pour venir t'attacher à côté de moi, vous savez, comme le font parfois les handisports lors des courses, il y a par exemple la personne qui est malvoyante et elle est attachée avec un lien à côté. Et les pas sont tellement bien faits des uns et des autres qu'ils arrivent à courir et à courir à des vitesses incroyables. Et je crois que Dieu est en train de me dire aujourd'hui, Bruno, il est temps maintenant d'arrêter de courir comme toi tu as envie de courir, de respirer comme toi tu as envie de respirer. Mais il est temps pour toi de venir calquer ta manière de marcher avec la mienne. Autrement dit, accélère si tu as besoin d'accélérer. Et aujourd'hui, l'Église est à la traîne. Et je ne dis pas ça avec une accusation, je le dis avec, comment dire, beaucoup d'amour. Je trouve que l'Église ne court pas assez à côté du Seigneur. À ses côtés. Attaché à Christ, le lien de son poignet attaché à mon poignet, courir et marcher avec lui et avec la même longueur de pas. C'est le temps de caler notre fréquence de marche sur celle de Dieu. Souvent, on vous dit, oh, le Seigneur est patient avec moi. Je sais, il y a plein de versets dans la Bible qui le disent. Mais il y a d'autres versets qui disent aussi qu'il est temps aussi de marcher avec lui. C'est le temps maintenant, le temps est proche. Et Paul dit, hâtez le retour du Seigneur. Il y a des temps où peut-être où tu ralentis, mais il y a des temps où tu dois accélérer dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire de calquer ma fréquence, le temps d'accélérer mon allure, peut-être d'augmenter ta vie de prière, d'augmenter ta capacité de déclarer les choses dans la prière, d'augmenter ta capacité de lire, de méditer la parole et d'aligner ta vie sur la parole de Dieu. Il y a bien une chose que je ne voudrais pas entendre du Seigneur le jour où je le rencontrerai, c'est qu'il me dise « tes lèvres m'ont honoré, mais ton cœur était éloigné de moi, Bruno. » Parce que je peux marcher comme Geoffrey l'a fait, je peux courir 10 mètres derrière le Seigneur. Je peux continuer à marcher comme ça tout le long de ma vie, mais je n'entendrai jamais le son de son souffle, le rythme de son souffle. Et en général, ce qui m'éloigne, ce qui éloigne ma cadence de la sienne, c'est ma, entre guillemets, mon amour à pécher, à vivre dans le péché, à vivre dans la désobéissance, à vivre dans l'orgueil. Souvenez-vous, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu marches humblement devant sa face. Et tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne choisis pas l'humilité. Qu'est-ce que Dieu nous a dit ? Et qu'est-ce que nous n'avons pas encore fait ? Moi, personnellement, j'essaye de prier, de me dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois calquer sur ma vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui doit encore être taillé dans le vif, dans mon cœur ? Et puis, je me suis posé la question concernant Betsalel. Qu'est-ce que Betsalel n'a pas encore fait aujourd'hui ? Je voudrais dire, mes frères et mes sœurs, je parle surtout pour les gens qui viennent à Betsalel régulièrement, mais Dieu a déposé un projet ici. En novembre, il y a 4 ans maintenant, il y a une image prophétique, 3 ans ou 4 ans, il y a une image prophétique d'une vague où Dieu interpellait tous ses enfants à se mettre en marche, tous. Cette vague a mené beaucoup de personnes complètement démembrées, déchirées. On sait que la vague représentait la violence de ce monde, la violence de notre société, la violence même parfois de personnes qui ont vécu ça dans les églises. Et le Seigneur disait, il y a une vague qui arrive parce que j'ai ébranlé les cieux et la terre. Et souvenez-vous, à l'époque, il n'y avait pas eu le Covid. Autrement dit, prophétiquement, Dieu avait parlé qu'il allait secouer les cieux et la terre, et il l'a fait. Et le but de Dieu, à travers ce qu'il a permis, c'est d'amener des personnes vers lui, sur la plage. Et là, nous devions normalement, je dis bien, nous devions, ou nous devrions normalement, mes frères, mes sœurs, être là sur la plage. Il y avait des personnes qui allaient chercher les gens au bord de l'eau, qui les ramenaient sur la plage, sans doute des évangélistes ou des gens qui viennent récupérer. Il y avait des postes de secours, où il y avait des gens qui devaient les soigner. Là, je pense aux pasteurs, à des gens qui ont une charge pastorale. Il y avait encore quoi ? Est-ce que vous vous souvenez d'une chose ? C'est que le Seigneur avait montré qu'il y avait des gens qui étaient sur leur transat et qui se passaient sur la plage alors que la vague humaine était là. Il y avait des gens qui se passaient de la crème solaire alors que les autres étaient au boulot. Et je me souviens dans cette vision à quel point j'étais attristé par ça. Et ce n'était pas la tristesse de Bruno, je sentais la tristesse de l'Esprit de Dieu qui disait, mais pourquoi ne se lève-t-il pas pour aller au secours de ces personnes que j'aime et que je veux sauver ou que je veux restaurer ? Et puis derrière, il y avait un grand château blanc. Vous voyez, je m'en souviens comme si c'était hier de cette parole prophétique, de cette vision. Et dans ce château blanc, les personnes qui étaient soignées allaient en convalescence et elles étaient formées et elles rentraient malades et elles sortaient. Elles sortaient équipées pour de nouveau aller sur la plage avec les autres. La question que je me pose aujourd'hui, moi, Bruno, après vous vous la posez si vous voulez, qu'est-ce que j'ai fait de cette parole ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai mis en place ? Qu'est-ce que je suis prêt maintenant à faire que je n'ai pas encore fait ? Parce qu'aujourd'hui, si je n'ai rien fait, c'est comme si Dieu marchait là et que je marchais moi à mon rythme. Vas-y, Seigneur. Qu'a fait Noé quand il a vu l'arche ? Il a dit, « Oh, je vais attendre que l'eau se mette à monter. » Il a construit l'arche. Qu'ont fait tous les hommes et les femmes croyants qui ont marché avec lui, ils ont aligné leur vie sur ce que Dieu avait dit. Et qu'est-ce que Dieu me montre aujourd'hui qui doit encore changer ? Parce que les choses soient claires, mes frères et mes sœurs, l'Évangile ne dit jamais que Dieu doit se calquer sur nous. L'Évangile dit qu'il a tout payé, qu'il a tout accompli et que c'est à moi de rejoindre ça. Obéissance et droiture, ça c'est une clé pour marcher avec Dieu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on balaye d'un revers de la main les informations. Je me suis rendu compte cette semaine, j'ai regardé les informations à l'hôtel, je regardais, et puis j'ai vu à quel point nous étions les zappeurs professionnels des informations qui nous étaient données. À un moment donné, j'étais en train de regarder, il y avait des sujets qui m'intéressent, le sport, un peu de politique, enfin, je regarde. Puis à un moment donné, ils ont parlé d'un sujet, j'ai dit « Oh ça ne m'intéresse pas ». Donc je suis allé sur une autre chaîne. La question que je me pose et que je vous pose, c'est que quand Dieu me parle, est-ce que je suis prêt à tout écouter ce qu'il a à me dire ? Ou est-ce que je suis prêt ? Ou est-ce que je suis tout le temps en train de zapper, de retenir ce que j'ai envie, entendre ce que j'ai envie d'entendre moi ? La loi de la vérité était dans sa bouche. L'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. C'est-à-dire que cet homme, peu importe de qui il s'agit, mais j'aimerais bien qu'un jour, quand je rencontrerai le Seigneur et que je verrai face à face, il puisse dire « La vérité était dans ta bouche, Bruno. Je n'ai pas trouvé d'iniquité sur tes lèvres. Tu as marché avec moi dans la paix et dans la droiture. » Et par le fait que tu as marché avec moi, tu as sauvé beaucoup d'hommes. Tu as détourné du mal les autres. Vous savez, ce qui va toucher les gens autour de nous aujourd'hui, ce ne sont pas les campagnes d'évangélisation à coups de millions de dollars ou d'euros, c'est la qualité de notre vie. C'est ce que nous représentons dans la vie de tous les jours. Alors la question est, que représentons-nous aujourd'hui ? Noé était le représentant de Dieu sur la terre. Enoch l'était, Jésus l'était. Jésus l'a même dit, je ne fais rien sans que le Père m'ait montré ce que je dois faire. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus était comme cela. Et si je veux marcher dans la droiture, dans la vérité, dans l'équité, dans la justice, je dois marcher comme Jésus a marché. Mon repère, c'est Jésus. Mon repère, c'est le Christ. Alors, je vais vous donner un exemple d'un peuple qui marchait 50 mètres, même 3 kilomètres derrière le Seigneur. Vous connaissez cette histoire, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem. Et la reconstruction, elle avait commencé, puis elle a été interrompue. Bon, je ne vais pas venir sur les raisons pour lesquelles ils ont arrêté leur travail. Parce que c'est souvent le cas, mes frères et mes sœurs. Dieu nous donne, le Saint-Esprit nous conduit à faire des choses. Et puis, un beau jour, pour une raison ou pour une autre, que faisons-nous ? Paf, on s'arrête, on s'assied et on ne bouge plus. Et on ne fait plus. Et quand je dis on s'assied, on ne bouge plus pour Dieu. Mais par contre, on est capable de faire des choses pour notre propre vie. Et regardez, ce peuple-là, à l'époque, ils avaient décidé d'arrêter. On ne va pas les juger, parce que les choses soient claires, on est comme eux. D'accord ? Ils avaient décidé, eux, par contre, de s'occuper de leur maison. D'ailleurs, le prophète Agé prophétise, il dit, vous avez des maisons lambrissées, vous avez des belles maisons, vous avez de beaux canapés en cuir, vous avez un beau carrelage, vous avez tout ce qu'il faut chez vous. Mais comment pouvez-vous, à un moment donné, vous sentir à l'aise par rapport à ça, alors que ma maison est détruite ? Et je vous le dis, mes frères, mes sœurs, l'Église, le sacerdoce royal, l'édifice de Dieu n'a jamais eu autant besoin de vous. L'Église a besoin des pierres vivantes que vous êtes, que nous sommes. L'Église n'a jamais eu autant besoin de cela. Et souvent, à cause peut-être d'épreuves, peut-être de désobéissance, peut-être, il y a plein de raisons valables. Nous nous sommes arrêtés et nous avons dit, c'est bon, je vais m'occuper de moi maintenant. Et les priorités, en fait, Dieu est en train de parler par le prophète Agé, il est en train de dire, mais vos priorités ne sont pas les miennes, votre allure n'est pas la mienne, votre cadence n'est pas la mienne. Et je ne jugerai pas sur leur direction, la direction qu'ils prenaient à l'époque. Est-ce que vous comprenez qu'à un moment donné, Dieu est en train de le dire, je marche à telle vitesse, à tel endroit, s'il vous plaît, peuple, mon peuple, venez et marchez et courez à ma cadence. Dieu parle par Agé au gouverneur Zorobabel et au prêtre Josué et dit, vos priorités ne sont pas les miennes, réfléchissez, il le dit deux fois dans le passage, réfléchissez attentivement à votre conduite. Réfléchissons attentivement à la manière dont nous faisons les choses aujourd'hui et à nos priorités. Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? Alors, que les choses soient claires, parce que je vous vois arriver, il va me dire, oh, surtout le pasteur est en train de dire que je n'ai pas le droit d'avoir une maison, que je n'ai pas le droit d'avoir un beau canapé, que j'ai pas... Non, je ne dis pas ça. Je dis, calque tes priorités sur mes priorités. Et souvenez-vous de la vision il y a 3 ans. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit. Souvenez-vous de la manière dont il a parlé clairement. Et placez-vous face à ce projet, face à cette vision divine, et dites-vous, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui par rapport à ça ? Peut-être que vous êtes indifférent, vous avez le droit. Hein. En tout cas, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit, moi. Et peut-être à plusieurs d'entre vous. Mes priorités sont-elles celles de Dieu aujourd'hui ? C'est la question que je vous pose. Alors le résultat, quand un peuple ou quand quelqu'un se met à marcher dans la cadence divine, c'est-à-dire quand il fait ce que j'ai fait avec Geoffrey, j'ai accéléré, j'ai dit « Oh là là, je suis en retard là !»« Oh là là là, je suis essoufflé !» Et souvent d'ailleurs, regardez, mon rythme de course n'était pas bon et j'avais l'impression de ne jamais avoir couru. Et souvent, lorsque nous sommes loin de notre guide, loin de Jésus, loin de sa priorité, nous nous essoufflons pour rien. C'est pourquoi dans le prophète Agé, il leur dit bien, mais vous semez, vous récoltez peu. Vous avez des choses et vous récoltez peu. Vous travaillez, mais vous récoltez pas beaucoup d'argent. C'est pas parce que Dieu punit, c'est parce qu'il veut éveiller leur conscience. Et donc quand notre conscience a besoin d'être éveillée, parfois par les épreuves qui peuvent nous arriver, je suis sûr que si je n'avais pas vu cette femme courir en face de moi, J'aurais même pas terminé la course, et le peu que j'aurais couru, j'aurais terminé épuisé. C'est qu'à un moment donné, j'ai compris que mon rythme de respiration et de course ne correspondait pas à ce que je devais faire. Et parfois, Dieu envoie des épreuves. Il permet l'épreuve. Il permet pour nous faire sentir, comprendre que nous avons besoin de changer. Alors, ils ont été réveillés. Il est dit, Dieu réveilla l'esprit de son peuple. Allez voir dans le prophète Agée, dans Esdras. Allez voir, vous verrez que je ne raconte pas que des bêtises. Et il réveilla l'esprit. C'est quoi? C'est la parole qui est arrivée du prophète qui a réveillé l'esprit, la conscience. Et si je prie qu'une seule chose ce matin, c'est que votre conscience soit réveillée, mes frères et mes sœurs. Que vous compreniez les priorités de Dieu. Examinez votre vie, examinez ce que vous récoltez, examinez ce que vous avez. Et peut-être que le Seigneur est en train de vous dire, peut-être que tu dois revoir tes priorités. Quant aux anciens des Juifs, regardez, ils ont bien réagi. Quant aux anciens des Juifs, ils progressèrent rapidement. Une autre version, on pourrait traduire en hébreu, ils prospérèrent vers les buts de Dieu. Waouh, c'est fort, hein ? Ils progressèrent rapidement dans la construction, encouragés par les prophètes Agée et Zacharie. Et plus loin, il est écrit, ils finirent de construire le temple, suivant qui ? Suivant l'ordre de Dieu. Il y a bien une chose que nous devons entendre aujourd'hui pour chacune de nos vies. Ce n'est pas ce que les autres veulent. Ah, je pèse mes mots quand je dis ça. Ne croyez pas que si vous pouvez me dire quelque chose, je vais vous écouter. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de faire quoi ? C'est d'obéir au Seigneur. Qu'est-ce qui vous importe à vous ? Voici le résultat d'un peuple qui corrige sa marche pour s'aligner avec les pas du roi des rois. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Peut-être allons-nous accélérer notre vie de prière? Peut-être allons-nous nous réengager davantage dans le projet divin? Peut-être allons-nous nous réengager davantage et être conséquents? Quand je dis conséquent, c'est-à-dire je dis, je fais. Pas juste ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous savez, aujourd'hui, je crois qu'il y a un fardeau divin sur le cœur de Dieu. C'est de sauver les âmes encore. Il n'a pas fini de sauver. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé lorsque j'ai suivi la semaine de prière destinée. Alors moi, ça a fait flash dans mon esprit. C'était un soir, nous prions, et c'était le soir pour ceux qui ont participé, où il est écrit que le Seigneur nous montre son fardeau. Et je ne sais pas, ça a fait un flash en moi. C'est comme si je disais, ou j'ai compris que le Seigneur me disait, tu sais Bruno, laisse tes fardeaux, hein. C'est-à-dire, tu portes peut-être des choses que tu n'as pas à porter, mais quel est mon fardeau ? Et j'ai compris que dans le cœur du Père, de mon Père céleste, il y avait un désir de sauver encore. Qu'allons-nous faire ? That is the question. Qu'allons-nous entreprendre ? Est-ce qu'on va continuer à marcher comme nous avons envie de marcher ? On ne finira pas la course. Vous ne finirez pas le semi-marathon. Mais si on se met à côté de Jésus, sur ce qu'il a à nous dire, relisez les évangiles. Relisons et méditons les évangiles. Regardons de la manière dont Jésus vivait, reprenait, priait, etc., etc. Agissez et calquons notre vie sur celle de Jésus. Parce que là, on va accélérer. Là, on va réussir. Là, on va aller atteindre le but que Dieu a fixé pour nous.